Seconde partie. Le stoïcisme de Zénon, l'ataraxie des Pyrrhoniens offrent au jugement des images fort extraordinaires. On les célèbre, on les met en dérision, on les admire, on s'en moque, et les sages n'accordent leur possibilité qu'avec des restrictions. Tout homme appelé à juger d'impossibilité ou de possibilité morale a raison de ne partir jamais que de lui-même, car étant de bonne foi, il ne peut admettre une force intérieure dans qui que ce soit, à moins qu'il n'en sente le germe en soi-même. Ce que je trouve en moi sur cette matière est que l'homme, par une force gagnée moyennant une grande étude, peut parvenir à se défendre de crier dans les douleurs et à se maintenir fort contre l'impulsion des premiers mouvements. Cela est tout. L'abstiné et le soustiné caractérise un bon philosophe, mais les douleurs naturelles qui affligent le stoïcien ne seront pas moindres que celles qui tourmentent l'épicurien, et les chagrins seront plus cuisants pour celui qui les dissimule que pour l'autre qui se procure un soulagement réel en se plaignant. L'homme qui veut paraître indifférent à un événement qui décide de son état n'en a que l'air, à moins qu'il ne soit imbécile ou enragé. Celui qui se vante de tranquillité parfaite ment, et j'en demande mille pardons à Socrate. Je croirai tout à Zénon lorsqu'il me dira d'avoir trouvé le secret d'empêcher la nature de pâlir, de rougir, de rire et de pleurer. Je me tenais sur mon fauteuil comme un homme stupéfait. Immobile comme une statue, je voyais que j'avais perdu toutes les peines que je m'étais données, et je ne pouvais pas m'en repentir. Je me trouvais destitué d'espoir, et je me sentais autre soulagement que celui que je pouvais me procurer en ne pensant pas à l'avenir. Ma pensée s'élevait à Dieu, et l'état où j'étais me semblait une punition venant de lui, directement de ce qu'après qu'il m'avait laissé d'en achever mon ouvrage, j'avais abusé de sa grâce en tardant 3 jours à me sauver. J'en convenais, mais en même temps j'accusais la punition de trop de sévérité, puisque je n'avais différé de 3 jours que par prudente précaution. Pour brusquer la raison qui me fit fixer ma fuite au 27, il m'aurait fallu une révélation, et la lecture de Marie d'Agreda ne m'avait pas fait devenir fou. Une minute après que Laura m'eut quitté, 2 de ses gens me portèrent mon lit, c'est-à-dire les draps, les matelas et la paillasse, et s'en allèrent pour prendre le reste. Mais 2 heures entières s'écoulèrent sans que je visse personne, malgré que les portes de mon cachot fussent ouvertes. Ce retard me causait une foule de pensées qui me rendaient stupide. Je ne pouvais rien deviner et je devais tout craindre. Je tâchais de me mettre dans un état assez tranquille pour souffrir sans lâcheté tout ce qui pouvait m'arriver de plus horrible. Outre les plombs et les 4, les inquisiteurs d'État possèdent aussi 19 prisons affreuses sous terre dans le même palais ducal où ils condamnent ceux qui ont commis des crimes qui les ont rendus coupables de mort. Tous les juges de la terre ont toujours cru qu'en laissant la vie à celui qui a mérité la mort, on lui accorde une grâce, quelle que soit l'horreur de la prison qu'on lui substitue. Ces 19 prisons souterraines sont positivement des tombeaux, mais on les appelle puits, et la raison qu'on leur donne ce nom peut être bonne, car effectivement ils sont toujours inondés de 2 pieds d'eau de la mer qui entrent par le même trou grillé par où ils reçoivent un peu de lumière. Ces trous n'ont qu'un pied carré d'extension. Le prisonnier est obligé, à moins qu'il n'aime d'être toute la journée dans un bain d'eau salée jusqu'aux genoux, de se tenir assis sur un tréteau où il tient aussi sa paillasse et où on le met à la pointe du jour son eau, sa soupe et sa portion de biscuits qu'il doit manger d'abord qu'on la lui porte, puisque des rats de mer plus grands que ceux que j'ai connus à la poutre irait le lui arracher des mains. Dans cette terrible prison où ordinairement les détenus sont condamnés jusqu'à leur dernière heure, et avec une nourriture pareille, où il semble qu'un homme ne puisse vivre que 5 à 6 mois, plusieurs y vivent jusqu'à la vieillesse, et on m'a assuré qu'un vieillard de 80 ans, qui mourut dans ce temps-là, y avait été mis à l'âge de 40. Persuadé d'avoir mérité la mort, il se trouva peut-être heureux. Il y a des gens qui ne craignent que la mort. C'était un espion qui, dans la dernière guerre que la République eut contre les Turcs l'année 16, partait de Corfou, entrait dans l'armée du grand vizir pour découvrir ce qu'on y décidait et pour en instruire M. le maréchal de Schulenburg qui défendait la forteresse. Cet infâme était dans le même temps l'espion du grand vizir. Et dans ces 2 heures d'attente, je n'ai pas manqué de me figurer qu'on allait peut-être me transporter dans les puits. Dans un endroit où on se nourrit d'espérances chimériques, on doit aussi avoir des craintes extrêmes. Le tribunal qui pouvait disposer de moi, maître de l'éminence et de la profondeur du palais, aurait fort bien pu m'envoyer à l'enfer quelqu'un qui aurait tenté de déserter du purgatoire. J'ai enfin entendu le bruit d'une serrure et les pas d'un furieux qui venait où j'étais. J'ai vu Laurent que la colère défigurait. Tout en rage, blasphémant Dieu et tous les saints, il commença par m'ordonner de lui donner la hache et tous les instruments que j'avais employés à percer le pavé du cachot et de lui dire qu'elle était celui de ces gens qui me les avaient portés. Sans bouger et de sang-froid, je lui ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait. Il ordonna alors à 2 archers de me fouiller, ce que je n'ai pas permis en me mettant dans un instant tout nu. Il fit visiter mes matelas et vider ma paillasse, et visiter jusque dans la cassolette puante. Il prit entre ses mains le coussin de mon fauteuil, et n'y ayant rien trouvé de résistant, il le jeta par dépit contre terre. « Vous ne voulez pas m'avouer, dit-il, où sont les instruments avec lesquels vous avez rompu le plancher, mais vous serez forcé de le confesser à quelqu'un. » Je lui ai répondu que s'il était vrai que j'eusse percé le plancher, je ne pouvais avoir reçu les instruments que de lui-même, et les lui avoir rendus s'il ne les trouvait pas. À cette réponse que ces gens qui l'avaient apparemment irrité applaudirent, il hurla, il donna de la tête contre la cloison, il pesta des pieds, j'ai cru qu'il allait devenir furieux. Il sortit, suivi de ces archers qui me portèrent d'abord mes hardes, mes livres, mes bouteilles, mon dîner qui était encore là depuis le grand matin, et tout ce qui m'appartenait excepté le morceau de pierre de touche et ma lampe. Après cela, il entra dans le corridor et il ferma les vitres des 2 fenêtres par où je recevais un peu d'air. Moyennant cela, je me suis trouvé dans le plus ardent de l'été, enfermé comme hermétiquement dans un très petit lieu où l'air ne pouvait entrer par aucune autre ouverture. J'avoue qu'après son départ, je me suis trouvé quitte à bon marché. Malgré l'esprit de son métier, il n'a pas pensé à visiter le fauteuil et, en me trouvant encore possesseur de mon verrou, j'ai poursuivi à y compter dessus sans avoir cependant dans ma tête aucun projet. La grande chaleur et le bouleversement de la journée m'empêchèrent de dormir. Le lendemain, de bonne heure, il me porta du vin qui était devenu vinaigre, de l'eau mauvaise, de la salade pourrie et de la viande puante. Il ne fit pas nettoyer et n'ouvrit pas les fenêtres lorsque je lui ai dit de les ouvrir. Une cérémonie extraordinaire qu'on commença à exercer ce jour-là fut l'emploi d'un archer qui, avec une barre de fer, faisait le tour de mon cachot et frappait partout sur le plancher, sur les cloisons, pour découvrir s'il n'y avait rien de rompu, et on retirait tous les matins le lit pour faire cette même fonction. J'ai observé que l'archer qui donnait ses coups de barre ne frappait jamais sous le plafond. Cette observation me fit en peu de jours enfanter le projet de sortir de là par le haut. Mais pour rendre mon projet mûr, il fallait des combinaisons qui ne dépendaient pas de moi, car je ne pouvais rien faire qui ne fût exposé à la vue. La moindre égratignure serait sautée aux yeux de chacun des archers qui rentraient dans mon cachot tous les matins. J'ai passé une cruelle journée. La chaleur forte commença vers midi. Je croyais positivement d'étouffer. Mon cachot était devenu une véritable étuve. Il me fut impossible de manger ou de boire, car tout était corrompu. La faiblesse causée par la chaleur et par la sueur qui sortait de tout mon corps à grosses gouttes ne me permettait ni de marcher ni de lire. Mon dîner le lendemain fut le même, et la nouvelle puanteur du veau qu'il me porta, qui était encore chaud, vint d'abord à mon odorat. Je lui ai demandé s'il avait ordre de me faire mourir de faim et de chaleur, et, sans me répondre le moindre mot, il s'en alla. Le jour suivant, ce fut la même chose. Je lui ai dit de me donner du crayon, puisque je voulais écrire quelque chose à monsieur le secrétaire. Et sans me répondre, il s'en alla. J'ai mangé la soupe par dépit et trempé du pain dans du vin de Chypre pour me conserver en force et pour le tuer le lendemain en lui enfonçant mon esponton dans le cou. Cela était devenu si sérieux que je trouvais que je n'avais pas d'autre parti à prendre. Mais le lendemain, au lieu d'exécuter mon projet, je me suis contenté de lui jurer de le tuer lorsque l'on me traite en liberté. Il en a ri, et sans me répondre, il s'en alla. J'ai commencé à croire qu'il en agissait ainsi par ordre du secrétaire, auquel il avait peut-être déclaré la fracture. Je ne savais que faire. Ma patience luttait avec le désespoir. Je me sentais mourir d'inanition, et réellement, j'allais succomber. Ce fut le huitième jour qu'avec une voix foudroyante et toujours à la présence de ses archers, je lui ai demandé compte de mon argent en l'appelant un fambourreau. Il me répondit qu'il me porterait mon compte dans le jour suivant. Mais avant qu'il fermât le cachot, j'ai embrassé avec violence le paquet des immondices et je lui ai fait voir par ma posture que j'allais le verser dans le corridor s'il ne me faisait pas changer d'abord. Il ordonna alors à un archer de le porter dehors et l'air étant devenu infecté, il se détermina à ouvrir une fenêtre. Mais lorsque l'archer me porta dedans le nouveau baquet, il la referma en sortant. J'ai crié comme un possédé, mais en vain. Telle était ma situation. Ayant vu que ce que j'avais obtenu avait été l'effet des injures que je lui avais dites, j'ai décidé de le traiter encore plus mal le lendemain. Mais le lendemain, ma fureur se calma. Avant que de me présenter mon compte, il me donna un panier de citron que M. de Béer m'envoyait, et j'ai vu une grande bouteille d'eau que j'ai jugée bonne, et dans mon dîner un poulet qui avait bonne mine. Outre cela, un archer ouvrit les deux fenêtres. Lorsqu'il m'a présenté mon compte, je n'ai jeté l'œil que sur la somme qui me restait pour lui dire que j'en faisais présent à sa femme, un sequin excepté que je distribuais à ces gens, dont deux, là présents, me remercièrent. Restez seul avec moi. Voici le discours qu'il me tint d'un air assez serein. Vous m'avez déjà dit, monsieur, que c'est de moi-même que vous avez reçu l'instrument avec lequel vous avez fait l'énorme trou dans l'autre cachot. Ainsi, je n'en suis plus curieux. Mais pourrais-je, à titre de grâce, savoir qui vous a donné le nécessaire pour vous faire une lampe ? Vous-même, lui ai-je répondu. Je ne croyais pas, répliqua-t-il, que l'esprit consistât dans l'effronterie. Je ne mens pas, lui dis-je d'un ton ferme. C'est vous qui m'avez donné avec vos propres mains tout ce qu'il me fallait pour me composer une lampe. Je lui ai alors expliqué comment je m'y étais pris. Et lorsqu'il se vit convaincu, il donna de ses mains contre la tête et me demanda si je le pouvais convaincre aussi de m'avoir donné des instruments pour rompre le plancher. Et je lui ai dit que oui, mais qu'il ne serait jamais qu'en la présence du secrétaire du tribunal. Il me pria alors de penser qu'il avait des enfants, et il s'en alla. Je fus bien enchanté d'avoir trouvé le moyen de me faire craindre de cet homme auquel il était décidé que je dusse coûter la vie. Je fus alors convaincu que son propre intérêt le forçait à tenir caché au ministre du tribunal ce que j'avais fait. Le petit vent qui soufflait tous les jours et qui toujours à la même heure entrait chez moi me rendit la force et l'appétit. J'ai ordonné à Laurent de m'acheter les œuvres du marquis Maffei. Cette dépense lui déplaisait et il n'osait pas me le dire. Il me demanda quel besoin je pouvais avoir de livres pendant que j'en avais là plus de 50. Je lui dis que je les avais tous lus et qu'il me fallait du nouveau. Il me répondit que si je voulais en prêter à quelqu'un, il en ferait prêter aussi et que, moyennant cela, je m'occuperais à une lecture toute neuve sans dépenser le sou. Je lui ai opposé que les livres qu'on pourrait me prêter seraient peut-être des romans frivoles dont je n'aimais pas la lecture. Il me répliqua d'un air piqué que je me trompais si je croyais d'être la seule bonne tête qu'on tenait enfermée là-haut. Et il ajouta que je m'étonnerais si je susse quelles étaient les personnes qui partageaient mon même sort. J'ai alors contrefait l'homme pénétré de respect, et sans perdre une minute, j'ai pris le premier tome de la chronologie du père Pétaut. Je lui ai dit de me porter en échange un autre livre d'égale importance. 4 minutes après, il me porta le premier tome de Wolf en latin, et très content, j'ai retiré l'ordre que je lui avais donné de m'acheter ma fille. Charmé de m'avoir fait entendre raison sur cet article, il s'en alla. Moins ravi de m'amuser à cette savante lecture que de saisir l'occasion d'entamer une correspondance avec quelqu'un qui aurait pu m'aider au projet de fuite que dans ma tête j'avais déjà ébauché, j'ai feuilleté le livre et j'y ai trouvé une demi-feuille de papier sur lequel j'ai lu dans 6 bons vers la paraphrase de ces mots de Sénèque « Calamito sus est animus futuri anxius ». Un esprit qui s'inquiète de l'avenir est misérable. J'en ai fait d'abord 6 autres, et n'ayant pas de crayon, je me suis servi du suc de mûre noir au lieu d'encre, et m'ayant laissé croître l'ongle du petit doigt de ma main droite pour me polir les oreilles, j'y ai fait la pointe et je m'en suis servi comme d'une excellente plume, en mettant le petit doigt entre le pouce et l'index. Enchanté de ma belle invention, j'ai fait le catalogue des livres que j'avais et je l'ai placé dans le dossier du même livre. Tous les livres reliés en carton en Italie ont sous la reliure par derrière une espèce de poche. Sur le même livre, là où l'on écrit le titre, j'ai écrit « La tête, querré ». C'est caché, cherche. L'impatient de recevoir une réponse, j'ai dit à Laurent, dans le matin du jour suivant, que j'avais déjà lu tout le livre et que la même personne me ferait plaisir à m'en envoyer un autre. Laurent me porta sur le champ le second tome de Wolf. Il me dit que la personne n'avait pas voulu différer pour me faire un si petit plaisir. J'en fus fâché, car je désirais une réponse. Dès que je fus seul, j'ai ouvert le livre et j'y ai trouvé une courte lettre en latin sur laquelle j'ai lu. Nous deux qui sommes ensemble dans cette prison ressentons le plus grand plaisir que l'ignorance d'un avare nous procure un avantage sans exemple. Moi qui écris, suis Marin Balbi, noble vénitien, régulier ce masque. Mon compagnon est le comte André Asquin, noble du Digne, capitale du Frioul. Il m'ordonne de vous dire que vous êtes le maître de disposer de tous ces livres, dont vous trouverez le catalogue dans le dossier, et nous vous recommandons les plus grandes précautions pour que Laurent ne parvienne jamais à découvrir notre correspondance, s'il vous plaira que nous l'entretenions. L'uniformité de notre idée de placer des billets dans le derrière des livres me parut singulière, et singulière la recommandation de précaution, tandis que sa petite lettre était entre une feuille ou l'autre, où Laurent l'aurait d'abord trouvé s'il eût ouvert le livre. Il est vrai qu'il ne savait pas lire, mais naturellement, il aurait gardé la lettre et aurait été chercher quelqu'un qui lui en aurait déclaré le contenu, et notre correspondance aurait fini en naissant. J'ai d'abord décidé que le père Balbi devait être un personnage auquel je ne devais céder qu'à l'égard de sa naissance et à cause de son sacré caractère. J'ai trouvé le catalogue et j'ai d'abord amplement répondu à cette lettre sur la moitié de la feuille du catalogue. Je leur ai dit mon nom, je leur ai écrit l'histoire de ma détention et l'espoir que j'avais de sortir bientôt, car je ne pouvais être là que pour des bagatelles. Je ne leur ai rien dit de la fracture du pavé. J'ai envoyé un livre le lendemain et j'en ai reçu un autre, où j'ai trouvé une lettre du père Balbi de 16 pages. Le comte Asquin ne m'a jamais écrit. Ce moine m'écrivit l'histoire, cause de son infortune. Il était sous les plombs depuis 4 ans, parce qu'il avait eu plusieurs bâtards qu'il avait voulu reconnaître pour ses fils naturels en les faisant baptiser sans aucune réserve sous son nom. Le père supérieur l'avait corrigé la première fois, l'avait menacé la seconde, mais à la troisième, il avait porté ses plaintes au tribunal, qu'il avait fait enfermer, et le supérieur lui envoyait son dîner tous les matins. Il employait 4 pages à se défendre, où il disait 1000 pauvretés. Entre autres, il soutenait que ni son supérieur ni les inquisiteurs d'État pouvaient avoir des droits sur sa conscience et que par conséquent, ce qu'ils exerçaient sur lui n'était que tyrannie et violent despotisme. Il disait que, sachant en conscience que ses enfants étaient de lui, il ne pouvait pas les frustrer des avantages qu'il pouvait retirer de son nom, et qu'un homme d'honneur ne pouvait envoyer à l'Hôtel Dieu, qui à Venise s'appelle la Pietà, que ce nez d'inceste dont la qualité connue pouvait causer du scandale. Il ajoutait que les 3 mères de ses enfants, quoique pauvres et obligées pour vivre à faire le métier de femme de chambre, étaient respectables, parce qu'on ne pouvait rien dire contre leur mère avant qu'elles ne l'eussent connue, et que l'erreur que l'amour leur avait fait commettre avec lui était devenue notoire. Le moindre dédommagement qu'il leur devait était celui de reconnaître pour sien les fruits de leur commerce pour empêcher la calomnie de les attribuer à d'autres. Il finissait par dire qu'il ne pouvait pas démentir la nature en agissant autrement qu'en père. Et après m'avoir dit beaucoup de mal de son supérieur, il ajoutait qu'il n'y avait point de risque qu'il ne pût jamais devenir coupable de la même faute, parce que sa tendresse pieuse ne se déclarait que vis-à-vis de ses écoliers, qui étaient les objets de toutes ses attentions. À la lecture de cette longue lettre, j'ai connu mon homme. Original, vicieux, sophistiqué dans son raisonnement sans le savoir, libertin, méchant, sot et ingrat, parce qu'après m'avoir dit qu'il serait fort malheureux sans la compagnie du vieillard qui avait des livres et de l'argent, il employait 2 pages à la description de ses défauts et de ses ridicules. Hors de ces prisons, je n'aurais pas répondu à un homme d'un pareil caractère. Mais là-haut, j'avais besoin de tirer parti de tout. Dans le dossier du livre, j'ai trouvé 2 plumes, de l'encre de la Chine et 2 feuilles de papier dans le livre, ce qui me mit en état d'écrire avec toute ma commodité. Tout le reste de sa longue lettre contenait l'histoire de tous les prisonniers qui étaient sous les plombs et de ceux qui y avaient été et qui étaient sortis depuis les 4 ans qu'il était là. Il me rendit compte que l'archer nommé Nicolas lui portait en cachette tout ce qu'il voulait acheter et l'informait du nom de tous les détenus et de ce qu'il arrivait dans toutes les autres cachots. Et pour m'en convaincre, il me disait l'histoire du trou que je devais avoir fait dans le cachot où j'étais et d'où l'on ne m'avait tiré que pour y loger le patricien Prueyre, Jessé, qui fut mis le lendemain de ma sortie. Il me disait que Laurent avait passé les 2 heures qu'il m'avait laissé seul à chercher un menuisier et un serrurier pour faire remplir et ferrer le trou, en prenant la liberté d'intimer à ses artisans le silence sous peine de la vie. Nicolas l'avait assuré qu'un seul jour plus tard, je m'en serais allé par un moyen qui aurait fait beaucoup parler et qu'on aurait fait étrangler Laurent, puisqu'il était tout simple que, quoiqu'il ait voulu paraître surpris à la vue du trou et qu'il ait fait semblant d'être fâché contre moi, il ne pouvait être que d'accord, car ce ne pouvait être que lui qui m'eût donné les instruments pour rompre et qu'on n'avait jamais pu trouver parce que, adroitement, je devais les lui avoir rendus. Nicolas lui avait dit aussi que M. de Béhère avait promis à Laurent 1000 sequins à l'événement de ma fuite, qu'il avait espéré de gagner sans rien risquer en comptant sur la protection de son éminence D, qui protégeait sa femme et que tous les archers étaient sûrs qu'il trouverait quelque moyen de me procurer la fuite sans risquer de perdre son emploi. Il lui avait dit qu'il n'osait pas faire savoir à M. le secrétaire toutes ces malversations, parce qu'il craignait qu'en se tirant d'affaire, il ne leur fît perdre leur pain. Et le père Balbi finissait sa lettre par me prier d'avoir confiance en lui et de lui conter toute l'histoire du plancher percé et de qui j'avais reçu les instruments, en m'assurant qu'il serait discret autant qu'il était curieux. Je ne doutais pas de sa curiosité, mais sur sa discrétion, j'avais des doutes. Les demandes qu'il me faisait le déclaraient déjà pour le plus indiscret des hommes. J'ai vu qu'il fallait le ménager et que j'aurais pu facilement réduire un être dans ce goût-là à faire tout ce que j'aurais voulu pour me procurer la liberté. J'ai passé toute la journée à lui répondre, mais un fort soupçon me fit différer à lui envoyer ma réponse. Il m'est venu dans l'esprit que ce commerce épistolaire aurait pu être un artifice de Laurent pour parvenir à savoir où étaient les instruments avec lesquels j'avais rompu le plancher. Je lui ai donc écrit une très courte lettre en lui disant qu'un fort grand mal à la tête m'empêchait de lui répondre en détail, mais qu'en attendant, je croyais de devoir satisfaire à sa curiosité en lui disant qu'un grand couteau avec lequel j'avais fait le trou, se trouvait sous la hauteur d'appui de la fenêtre du corridor où je l'avais caché d'abord, que je l'ai vu seul dans le nouveau cachot, et où Laurent n'avait pas regardé et que je ne savais plus que faire de ce couteau. Cette fausse confidence mit en 3 jours de temps mon esprit en paix, car si l'on eût intercepté mes lettres, le gardien aurait visité la fenêtre, mais je n'ai rien vu d'extraordinaire. Le père Balbi m'écrivit qu'il savait que je pouvais avoir ce gros couteau, car Nicolas lui avait dit qu'on ne m'avait point fouillé avant que de m'enfermer. Il lui avait dit que Laurent s'était informé que les hommes de Messer Grande n'avaient pas visité mes poches et qu'il était persuadé que j'avais des armes. Il disait qu'il ne se crut pas obligé à me fouiller, car en me relevant les mains de Messer Grande, il devait supposer que ce devoir avait été exécuté et que, dans le cas que ma fuite ne fût réussie, cette circonstance aurait pu le sauver et que tout le blâme serait tombé sur l'autre. Et l'autre aurait dit que, m'ayant vu dans mon lit et m'habillé à sa présence, il n'avait pas besoin de me faire fouiller, car il était sûr que je n'avais rien. Il finissait sa lettre par me dire que je pouvais me fier à Nicolas et lui envoyer mon couteau. Ce moine était un curieux qui voulait tout savoir. Et cet archer Nicolas, dont la passion dominante devait être l'indiscrétion, faisait toutes ses délices. Ses lettres m'amusaient en même temps qu'elles me découvraient ses défauts. Il me dit que le comte Asquin était un homme de 70 ans, incommodé par un fort gros ventre et par une jambe qui, cassée jadis et mal raccommodée, le rendait boiteux. N'étant pas riche, il exerçait dans Udine le métier d'avocat et il défendait l'ordre des paysans que celui des nobles voulait priver du droit de suffrage dans les assemblées provinciales. Les prétentions des paysans troublaient la paix publique et les nobles eurent recours au tribunal qui ordonna au comte Asquin d'abandonner leur clientèle. Il avait répondu que le code municipal l'autorisait à défendre la Constitution et il désobéit. Les inquisiteurs d'État le firent enlever malgré le code et le logèrent sous les plombs, où il y avait 5 ans qu'il s'amusait à lire et à attendre le moment de sa liberté. Il avait, comme moi, 50 sous par jour, et il avait le privilège de manier son argent, ce qui l'avait mis en état d'amasser quelques douzaines de sequins, puisqu'il ne dépensait pour vivre que 10 à 12 sous par jour. Ce moine, qui n'avait jamais le sou, me disait à ce propos beaucoup de mal de son camarade, que, comme de raison, il accusait d'avarice. Il me fit savoir que, dans le cachot vis-à-vis du mien, il y avait 2 frères du pays, des 7 communs, qui étaient là-dedans par inobéissance aussi, dont l'aîné était devenu fou furieux au point qu'on le tenait lié. Dans un autre cachot, il y avait 2 notaires publics. Un comte véronais de la maison de Pinde avait été enfermé pour 8 jours pour n'avoir pas obéi à un ordre qu'il avait reçu de se présenter. Nicolas lui avait dit que ce seigneur avait eu des grandes distinctions. On avait permis à ses domestiques de lui consigner ses lettres en main propre. Lorsque mes soupçons furent dissipés, l'état de mon âme me fit raisonner ainsi. Je voulais me procurer la liberté. L'esponton que j'avais était excellent, mais il était impossible que je m'en servisse parce que tous les matins, mon cachot était frappé par des coups de barre à tous les coins, excepté au plafond. Je ne pouvais donc penser qu'à sortir par le plafond en le faisant rompre par-dessus. Celui qui l'aurait rompu aurait pu se sauver avec moi en m'aidant à faire un trou dans le grand toit du palais dans la même nuit. Je pouvais me flatter d'en venir à bout ayant un compagnon à l'ouvrage. Lorsque j'aurais été sur le toit, j'aurais vu ce qu'il y avait à faire. Il fallait donc se résoudre à y aller. Je n'ai vu que ce moine qui, à l'âge de 38 ans, quoique mal pourvu de bon jugement, aurait pu exécuter toutes mes instructions. Il fallait donc me déterminer à lui confier tout et penser aux moyens de lui envoyer mon verrou. J'ai commencé par lui demander s'il désirait sa liberté et s'il se sentait disposé à tout faire pour se la procurer en se sauvant avec moi. Il me répondit que tant lui que son compagnon seraient prêts à tout faire pour briser leurs chaînes mais qu'il était inutile de penser à ce qui était impossible. Il me faisait lire un long détail des difficultés dont il remplissait 4 pages et que je n'aurais jamais fini si j'eusse voulu les aplanir. Je lui ai répondu que toutes ces difficultés ne me paraissaient que fort légères et qu'absolument je ne voulais pas confier au papier leur résolution et que, s'il voulait me promettre d'exécuter mes instructions, je lui promettais la liberté. Il me répondit qu'il était prêt à tout. Je lui ai alors écrit que je penserais au moyen de lui envoyer le véritable instrument que je possédais pour rompre, qui n'était pas un couteau, et qu'avec cet instrument, il percerait le toit de son cachot, il y monterait dessus, il irait au mur qui nous séparait, il le percerait, il le passerait, il se trouverait sur le toit de mon cachot et il le romprait. J'en sortirais. Et pour lors, me trouvant avec lui et avec le comte, nous romprions le grand toit du palais, soulèverions les plaques de plomb, et que, dès que nous serions sur le grand toit, celle de descendre pour nous trouver libres dans les rues de Venise serait mon affaire. Il me répondit qu'il était prêt à tout, mais que j'allais entreprendre un ouvrage impossible. Et ici, avec cent mais, il me faisait l'énumération des impossibilités qui rigoureusement n'étaient que des difficultés. Je lui ai répondu que j'étais sûr de mon fait et que s'il voulait se sauver avec moi, il n'avait qu'à commencer à exécuter mes instructions dont la première était de faire acheter par Laurent 40 à 50 images de saints sur papier et, sous prétexte de dévotion, d'en couvrir toutes les cloisons du cachot et avec les plus grandes, le plafond, et que je ne lui dirai pas davantage que lorsqu'il aurait exécuté cette première commission. J'avais reconnu qu'il m'était nécessaire d'en agir ainsi avec cet homme qui ne savait faire la bile vis-à-vis de moi que par des raisonnements dont le fond n'était que timidité et obstacle que, selon mon calcul, il fallait brusquer. Il les mettait en ligne de compte. C'était le vrai moyen de ne se déterminer jamais. J'ai ordonné à Laurent de m'acheter la nouvelle Bible qu'on avait imprimée en grand in-folio, où il y avait, outre la Vulgate et le Nouveau Testament, la version aussi des Septante. J'ai pensé à ce livre dont le grand volume me faisait espérer de pouvoir y placer mon esponton et de l'envoyer ainsi aux moines, mais lorsque je l'ai eu et que j'ai essayé, je suis devenu triste et rêveur. J'ai trouvé que le verrou avait 2 pouces de longueur plus que la Bible. Le moine m'avait écrit que le cachot était déjà tout tapissé comme je l'avais prescrit et que Laurent leur avait dit que j'avais acheté ce grand livre et qu'il l'avait prié de leur en procurer la lecture à ma commodité. Effectivement, il me le demanda et je lui ai dit que pour 3 ou 4 jours, j'en avais besoin moi-même. Je ne trouvais pas de remède à la longueur excédente du verrou. Il aurait fallu la forge pour le raccourcir. Je ne pouvais pas prétendre que Laurent dût devenir aveugle pour ne pas voir l'excédent de la machine qui ne pouvait sortir du dossier du livre sans lui sauter aux yeux. Il fallait pourtant le trouver, cet heureux moyen. Et s'il existait en nature, on ne pouvait le trouver qu'à force d'y penser. J'ai communiqué mon embarras au père Balbi. Il me répondit le lendemain, en se moquant de l'infécondité de mon imagination, que le moyen était tout simple. Laurent leur avait dit que j'avais une belle pelisse. Il me disait qu'ils s'en montreraient curieux et qu'ils me feraient prier de la leur faire voir. Que je n'avais donc qu'à y mettre dedans les spontons et à leur envoyer plier, que naturellement Laurent la leur porterait sans la déplier, et qu'adroitement il en tirerait dehors les spontons et qu'il me la renverrait d'abord. Malgré que le style du moine m'ait piqué, la hardiesse de ce projet ne m'a pas déplu. J'avais des preuves de la bêtise de Laurent, mais je trouvais trop naturel qu'il déployât la pelisse lui-même en entrant dans le galetas comme pour la leur faire mieux regarder, d'autant plus que leur cachot n'était pas bien clair. Le verrou serait tombé sur le plancher. J'ai cependant écrit au moine que j'adoptais son projet, qui n'avait qu'à me faire demander la police. Laurent, le lendemain, me pria d'excuser la curiosité de la personne qui me prêtait des livres, qui désirait de voir ma pelisse. Je la lui ai donnée sur le champ, très bien pliée, en lui disant de me la rapporter d'abord. Mais j'espère que le lecteur ne pensera pas que j'étais assez bête pour y mettre dedans le verrou. Il me la rapporta 2 minutes après en me remerciant. Je lui ai dans le même moment ordonné pour le jour de la Saint-Michel 3 livres de macaroni dans une chaudière d'eau bouillante sur un grand réchaud. Je lui ai dit que je voulais en assaisonner moi-même 2 plats, un le plus grand qu'il eût dans sa maison, dont je voulais régaler les dignes personnes qui me donnaient des livres, l'autre de moyenne grandeur pour moi. Je lui ai dit que je voulais fondre le beurre moi-même et y mettre le fromage parmesan qu'il me porterait tout râpé. J'ai décidé de mettre le verrou dans le dossier de la Bible en y plaçant dessus le grand plat de macaroni dont le beurre abondant dans lequel il devait nager aurait engagé les yeux de Laurent tellement qu'il n'aurait pas osé les en détacher pour prendre garde aux extrémités du dossier du livre. Le plat devait être si plein qu'il devait craindre d'en verser sur le livre. Le lendemain du jour que j'ai envoyé la police, j'ai bien ri. Le père Balbi, inquiète et tremblant, m'écrivait que Laurent était entré dans leur galetas en tenant la pelisse déployée et que, quoiqu'il n'eût fait semblant de rien, il dut certainement avoir trouvé et gardé l'esponton. Il me disait qu'il était au désespoir de devoir se reconnaître pour la cause de cet irréparable malheur. Il me reprochait cependant d'en avoir pas réfléchi un peu avant que d'adopter son projet. Je lui avais déjà écrit le même matin qu'il n'y avait rien dans la pelisse et que je ne lui ai envoyé tout de même que pour lui faire voir qu'il pouvait se fier à moi et être sûr pour l'avenir qu'il n'avait pas affaire à un étourdi. Je lui ai en même temps communiqué mon projet pour le jour de la Saint-Michel et je lui ai recommandé toute l'adresse dans le moment où il recevrait le plat sur le livre des mains de Laurent, car ce passage des mains à main devait être le moment le plus critique pour la fatale découverte du verrou. Je lui ai dit de se bien garder de jeter ses yeux impatients sur les 2 bouts du livre, puisque par nature les yeux de Laurent se tourneraient alors vers le même endroit et il verrait l'excédent et tout serait perdu. La veille de cet heureux jour, j'ai enveloppé l'esponton dans du papier et je l'ai enfoncé dans le dossier du livre. Et au lieu de laisser l'excédent de 2 pouces d'un côté, je l'ai divisé en 2. Il sortait la mesure 1 pouce à droite et 1 pouce à gauche. N'ayant aucune raison pour que Laurent doive regarder les coins du livre plus d'un côté que de l'autre, j'ai cru, en divisant cet excédent, de diminuer le danger de la moitié. Laurent parut de grand matin avec une grande chaudière où les macaronis bouillonnaient. J'ai d'abord mis le beurre sur le réchaud pour le fondre et j'ai préparé mes plats arrosés de fromage. J'ai la cuillère percée et j'ai commencé à les remplir en y mettant dessus à chaque main beurre et fromage, et je n'ai cessé que lorsque le grand plat destiné aux moines ne pouvait en contenir davantage. Le beurre allait jusqu'aux extrémités de ses bords. Le diamètre de ce plat était quasi le double de la largeur de la Bible. Je l'ai pris et je l'ai placé sur le grand livre que j'avais à la porte de mon cachot, et en le prenant au-dessus de mes mains, avec le dossier tourné vers Laurent, je lui ai dit d'allonger ses bras et d'étendre ses mains. C'est là que j'ai placé ma Bible tout doucement pour que le beurre me coule dessous. En lui conciliant cet important fardeau, je tenais mes yeux fixés contre les siens, qu'avec le plus grand plaisir je ne voyais pas se détourner de dessus le beurre qu'il craignait de verser. Il le prit en se plaignant que j'en avais mis trop, mais en y tenant toujours les yeux fermes dessus, et en disant que si quelques gouttes allaient se verser sur le livre, ce ne serait pas de sa faute. Je me suis vu sûr de la victoire d'abord que j'ai vu la Bible sur ses mains, car les deux bouts du verrou, qui étaient éloignés de mes yeux toute la largeur du livre, lorsque je le tenais, était devenu invisible pour lui lorsqu'il le tenait lui-même. Il se trouvait attenant à ses épaules et il n'y avait aucune raison qui pût lui faire détourner les yeux et la tête pour regarder ni l'un ni l'autre de ses coins. Il ne pouvait l'intéresser en rien, il aurait dû faire un effort. Son seul empressement devait être celui de tenir son plat parallèle. Il partit et je l'ai suivi des yeux jusqu'à ce que je l'ai vu descendre les marches pour entrer dans le galetas du moine. Un instant après, j'ai entendu le bruit d'un nez qui se mouchait à trois reprises. Signal concerté pour m'indiquer que le tout était parvenu à bon port. J'ai alors fini de remplir mon plat de macaroni pour moi-même, et Laurent est venu m'assurer que pas une seule goutte de beurre était tombée sur le livre. Le père Balbi employa 8 jours à faire une suffisante ouverture dans le toit de son cachot pour pouvoir en sortir. Il détachait du toit une grande estampe qu'il remettait après à la même place en la collant avec de la mie de pain mâchée pour empêcher que son travail ne fût vu. Le 8 d'octobre, il m'écrivit qu'il avait passé toute la nuit à travailler dans le mur qui nous séparait et qu'il était parvenu à en extraire qu'un seul carreau. Il m'exagérait la difficulté de dessouder les briques unies par un ciment trop solide. Mais il me promettait de poursuivre et me répétait dans toutes ses lettres que nous allions rendre notre condition plus mauvaise puisque nous ne réussirions pas et que le tout étant découvert, nous nous en repentirions. Je l'ai encouragé à travailler toujours en assurant que j'étais sûr de mon fait dès qu'il serait parvenu à faire une suffisante ouverture dans mon cachot. Hélas, je n'étais sûr de rien, mais il fallait en agir ainsi ou abandonner le tout. Comment aurais-je pu lui dire ce que je ne savais pas moi-même? Je voulais sortir de là. Voilà tout ce que je savais, je ne pensais qu'à faire des pas et aller en avant pour ne m'arrêter que lorsque je trouverais l'insurmontable. J'avais lu quelque part qu'il ne fallait pas consulter les grandes entreprises, mais les exécuter sans contester à la fortune l'empire qu'elle a sur tout ce que les hommes entreprennent. Si j'eusse dit ces vérités au père Balbi, si je lui eusse communiqué ces hauts mystères de la sublime philosophie, il m'aurait traité de fou. Son travail fut difficile dans la seule première nuit. Dans les suivantes, plus il tirait dehors des carreaux, plus il trouvait de facilité à en extraire d'autres. Il trouva, à la fin de son travail, qu'il avait ôté du mur 36 briques. Le 16 d'octobre, à 18h, dans le moment que je m'amusais à traduire une ode d'Horace, j'ai entendu un trépignement sur mon cachot et d'abord 3 petits coups de poignet. Je me suis levé et j'ai d'abord frappé au même endroit 3 coups pareils. C'était le signal concerté pour nous rendre sûrs que nous ne nous étions pas trompés. 1 minute après, j'ai entendu le commencement de son travail et j'ai adressé à Dieu tous mes vœux pour son heureuse réussite. Vers le soir, il me salua en frappant 3 autres coups que je lui ai rendus et il se retira, repassant le mur et rentrant dans son cachot. Le lendemain, de bonne heure, J'ai reçu sa lettre dans laquelle il me disait que si mon toit n'était composé que de 2 rangs de planches, il était sûr d'être à la fin de son ouvrage en 4 jours, car la planche qu'il avait percée n'avait qu'un pouce d'épaisseur. Il m'assurait qu'il ferait le petit canal en cercle, comme je l'avais instruit, et qu'il aurait grand soin de ne jamais parvenir à percer tout à fait la dernière planche, parce que le moindre petit signe de fraction au-dedans de mon cachot aurait fait soupçonner la fraction supérieure. Il me répétait aussi la leçon en me disant qu'il pousserait l'excavation au point qu'il ne resterait qu'une ligne d'épaisseur à la dernière planche, de sorte qu'il se verrait en état d'ouvrir dans 1 quart d'heure le trou au moment où je l'aurais ordonné. J'avais déjà fixé ce moment. L'ouvrage devait être terminé le jeudi et je comptais de faire achever l'ouverture le samedi à midi pour aller faire le reste de l'ouvrage en rompant les planches du grand toit qui étaient immédiatement sous les plaques de plomb qui couvraient le palais. Le lundi, 2 heures après-midi, dans le temps même que le père Balbi travaillait, j'ai entendu le bruit des portes qu'on ouvrait de mon côté. Mon sang se gela, mais j'ai frappé vite 2 coups sous le plafond, marque d'alarme. Une minute après, j'ai vu Laurent qui entrait dans le corridor en me demandant pardon s'il mettait en ma compagnie un gueux dans toute la signification du terme. J'ai vu un homme de 40 à 50 ans, petit, maigre, laid, mal vêtu, en perruque noire et ronde. 2 archers le dégarotèrent. Je n'ai pas douté que ce ne soit un gueux, puisque Laurent me l'avait renoncé à sa présence sans que le titre ait rebuté le personnage. Je lui ai répondu que le tribunal était le maître, et je l'ai prié de ne pas s'en aller sans lui donner une paillasse. Il eut cette complaisance. Après nous avoir enfermés, il lui dit que le tribunal lui passait 10 sous par jour. Mon nouveau camarade lui répondit « Dieu les lui rende, malgré que, désolé, j'ai commencé d'abord à examiner ce coquin que sa physionomie décelait. J'avais besoin de le sonder et pour le connaître, il fallait le faire parler. Il commença par me remercier que je lui avais fait porter une paillasse. Je lui ai dit qu'il mangera avec moi et à toute force il a fallu que je me laisse baiser la main. Il me demanda s'il pouvait demander au gardien les 10 sous que le tribunal lui donnait. Et en prenant un livre et faisant semblant de lire, je lui ai répondu qu'il ferait fort bien. J'ai vu cet homme se mettre à genoux et tirer de sa poche un chapelet. Il cherchait les yeux, je ne savais pas quoi. « Que cherchez-vous ? » lui dis-je. « Je cherche, vous me pardonnerez, quelque image de l'Immacolata Vergine Maria, car je suis chrétien ou au moins quelque passable crucifix, car je n'ai jamais eu tant besoin de prier Saint François, dont je porte indignement le nom, comme aujourd'hui. » J'ai eu la plus grande peine à retenir un grand éclat de rire, non pas à cause de la piété chrétienne que je révérais, mais à cause de la tournure de sa remontrance. J'ai cru à sa demande de pardon qu'il me prenait pour un juif. Je me suis hâté de lui donner l'office de la Sainte Vierge, dont il baisa d'abord l'image en me la rendant, et en me disant modestement que feu son père Argousin de Galère avait négligé de lui faire apprendre à lire, mais que certainement il voulait pour le moins apprendre à écrire, car il lui arrivait d'en avoir besoin tous les jours. Je lui ai dit que j'allais moi-même dire l'office tout haut, et qu'en l'écoutant, il aurait le même mérite que s'il le récitait lui-même. Il me répondit que sa dévotion particulière était pour le très saint rosaire, dont il a voulu me narrer une quantité de miracles, que j'ai écouté avec une patience exemplaire, et il me dit à la fin que la grâce qu'il me demandait était de lui permettre de poster vis-à-vis de lui la sainte image que je lui avais montrée pour l'adorer en disant son rosaire. Je lui ai fait ce plaisir et j'ai même accompagné sa prière, ce qui dura une demi-heure. Je lui ai demandé s'il avait dîné et il me dit qu'il était à jeun. Je lui ai donné tout ce que j'avais et il dévora tout avec une faim canine mais en pleurant toujours. Ayant bu tout le vin sans eau, il se trouva gris. Et pour lors, ses larmes redoublèrent et il lui prit une forte envie de parler. Je lui en ai fourni un grand sujet en l'interrogeant sur la cause de son malheur. Voici le précis de sa réponse que mon esprit n'oubliera qu'en passant le Styx. Je la rends finalement au lecteur, dans l'ordre de narration qu'il suivit lui-même.